Un moment de contemplation en pleine présence. En les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge par les bienfaits des dons et vertus que je m'éveille pour tous les vivants. Om Aum. Nous allons continuer la voie de l'autolibération, Mahamudra Dzogchen. Après l'introduction qui a présenté en général le contexte, puis l'introduction directe, les réceptivités, les chapitres que nous avons vus précédemment. Nous abordons aujourd'hui le chapitre 4 intitulé La pratique de Mahamudra. Mahamudra, la grande union, l'union non dualiste, l'immédiateté non duelle, Mahamudra, l'état de présence d'instantanéité. On peut discuter de la notion même de pratique. Il est une pratique du Mahamudra, mais qui n'est pas une pratique quelque chose qui soit fait, qui soit fabriqué. L'expérience de l'instant présent et de son instantanéité est ici. La pratique de Mahamudra est entrée en cette présence, entrée en cette nature qui est ici même, dans l'instant, dans l'instantanéité, dans l'immédiateté non duelle. Le chapitre commence par une citation de Nagarjuna que cite Gampopa dans l'ornement de la libération. Il dit: ne pense ni ne conçois, sans artifice demeure en la détente naturelle, sans conception, en l'état de non-conception, relâché, détendu, demeure en l'état naturel. En l'absence de toute production, de toute fabrication, de tout artifice, l'inné s'accomplit spontanément. Telle est la voie suivie par tous les victorieux des trois temps, les Bouddhas du passé, du présent et de l'avenir ont tous suivi cette voie. Elle peut avoir des noms différents, mais c'est la voie de la non-conception, l'expérience inconceptuelle d'immédiateté non-duelle dans l'autolibération. C'est ce que nous allons voir, découvrir. Les préliminaires à une session, ici dans le cadre de cette présentation, nous envisageons l'assise, une période une session d'assises. Mahamudra est susceptible d'être pratiqué, c'est une expérience qui se vit continuellement, n'importe où, n'importe quand, mais avant d'avoir la capacité de cette intégration, il est important de découvrir l'expérience et de la cultiver dans l'assise, dans des moments de pratique assise. Pour celle-ci, placer le corps dans certaines conditions favorables facilite la pratique. La première condition favorable est de nous tenir droit sans tension. Position confortable, équilibrée. Puis, après être entré en refuge et avoir développé bodhicitta, être entré en la présence de l'éveil et avoir engendré une motivation de bienveillance universelle. Ce que l'on fait, car le succès de la pratique est lié à l'inspiration. Et pour cette raison, chaque session commence par le yoga du lama, le yoga du maître, qui nous fait entrer dans l'inspiration et qui établit la connexion avec l'influence spirituelle, l'inspiration. D'une façon très simple, nous nous représentons dans l'espace, en face de nous, notre lama racine, notre maître source, sous l'aspect du Bouddha Vajradhara, clair et transparent, avec toutes ses caractéristiques et ses attributs. Il est réellement présent là, avec son amour, sa compassion, sa réalisation, toutes ses qualités éveillées. Donc, cette présence éveillée, avec toutes ses qualités, et son amour, sa bonté, nous sommes en sa présence. En essence, il est tous les aspects des refuges, extérieurs, intérieurs, secrets, d'incité. Il réunit tous les aspects de l'éveil, tous les refuges. Son esprit, sa parole et son corps sont respectivement Bouddha, Dharma, Sangha, Yidam, Dharmapala, Lama, Dharmakaya, Sambhogakaya et Nirmanakaya. Donc, la réunion des aspects du refuge dans leur dimension extérieure, intérieure et d'incité. En cette présence, nous récitons une prière qui stimule notre dévotion, c'est-à-dire notre respect, notre aspiration, qui éveille notre réceptivité, notre élan. Dévotion a le sens d'abandon et d'inspiration. D'abandon au sens de lâcher, de s'en remettre, et d'inspiration au sens d'une aspiration, d'un élan. Et avec ainsi une confiance intense, nous pensons ou répétons pour le bien de tous les vivants, faites que je réalise Mahamudra rapidement maintenant. Que je réalise Mahamudra dans l'instantanéité, ici, maintenant. Puis le lama Vajradhara se dissout en lumière, absorbé en nous. Nous recevons ainsi toute son influence spirituelle et méditons que son corps, sa parole et son esprit et nos propres corps, parole et esprit ne sont plus séparés. Dans cet état d'union, nous restons absorbés quelques instants. Vajradhara, foncièrement, n'est pas extérieur, mais dans notre situation habituelle, il est extérieur à notre observateur commun. C'est ainsi que nous l'invoquons et nous l'intégrons, entrant ainsi dans sa présence authentique en soi, en nous. Et dans cet état d'union, corps, parole, esprit de Vajradhara, corps, parole, esprit du Maître Source, et nos corps, parole, esprit, nom d'eux, inséparables. Absorbés ainsi, l'esprit d'immédiateté, la présence d'instantanéité, nous dit la section qui suit. En elle-même, la pratique de Mahamudra est extrêmement simple et facile. Il n'y a pas de visualisation ni d'exercice compliqué. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à fabriquer. Il suffit seulement de laisser l'esprit en son état naturel, tel qu'il est, comme il vient, sans artifice. Laisser son esprit tranquille, reposer dans son état naturel, tel quel, sans modification, sans artifice, sans bricolage, tel quel, sans rien faire, laisser être. Tout simplement. C'est extrêmement simple. Dans la tradition du Mahamudra reliquaire, qui est la tradition du Mahamudra Champa, il est dit, il y a quatre défauts ou obstacles à la découverte de l'état de Mahamudra. Il est dit que Mahamudra est trop proche pour être reconnu. L'état de Mahamudra est notre état naturel. Il est plus proche de nous-mêmes que nous ne le sommes à nous-mêmes. Il est tellement proche que c'est cette proximité qui le rend difficile à reconnaître. Il y a un paradoxe, mais trop proche pour être reconnu. Et trop profond pour être saisi. La réalité de cet état dans sa profondeur est au-delà de la saisie. Et il échappe à la saisie, trop profond pour être saisi, insaisissable. Trop simple pour être cru. Tellement simple que l'on n'y croit pas. Ce serait trop simple. C'est pas possible. Trop simple pour être cru. Et trop merveilleux pour être compris par l'intellect. Les merveilles de cet état sont incommensurables et l'intellect ne peut les comprendre tant elles sont merveilleuses, immenses. Ce sont les quatre défauts ou les quatre obstacles qui empêchent de vivre, d'expérimenter pleinement cet état, l'état de présence, d'instantanéité, l'état de Mahamudra. Et disons ici Mahamudra, nous pourrions pareillement aussi bien dire Dzogchen. Donc, tels sont les quatre obstacles qui empêchent de reconnaître Mahamudra. Maintenant, nous pouvons essayer de méditer un peu ensemble. Avec cette parole de Gampopa qui dit: l'eau sans agitation est limpide, l'esprit sans contrainte est heureux. L'eau qui n'est pas agitée est limpide. L'eau agitée dans son agitation entraîne de la vase et toutes sortes de suspensions qui la rendent opaque. L'eau non agitée, l'eau au repos, se décante et est naturellement limpide. Pareillement, si l'on laisse notre esprit tranquille, l'agitation des pensées et des conceptions se décante, se libère, s'auto-libère et l'esprit, l'expérience devient naturellement ouverte et transparente, ouverte et limpide, lucide, ouverte dans une limpidité de clarté, claire et ouverte. Et la qualité de cette clarté ouverte est bien-être. C'est ainsi que Gampopa dit: l'esprit non contraint est heureux. Un moment de repos, ainsi. Comme l'exprime cette citation, nous laissons l'esprit sans contrainte, détendu, sans le forcer aucunement, complètement relâché. Et il viendra alors naturellement en un état de bien-être. Si l'esprit n'est pas contraint, il est naturellement paisible et limpide. Ne pas contraindre l'esprit, ne pas essayer de le concentrer, de fabriquer sans artifice, lâchant toute fabrication, toute contrainte, toute tentative et laissant être ouvert, clair, lucide et heureux. Dans cet état, l'esprit ne se pose pas sur quelques points de repère extérieurs ou intérieurs. Il reste dégagé de toute fixation, sans être contrôlé. Dégagé par rapport à des fixations, par rapport à des saisies, il reste désengagé, sans fixation, sans contrôle, sans contrôleur, relâché, abandonné, suspendu. Et ainsi, clair et ouvert. Il n'y a pas non plus d'évaluation de l'esprit comme étant vide, clair ou de quelque manière que ce soit. Non. Il n'y a pas non plus à se dire, ah, l'esprit est ouvert, ah, l'esprit est clair, ou ceci, ouais. À juger. Évaluer, ce qui de nouveau est une forme de conception et de mentalisation. Il n'y a pas même d'observation, car regarder l'esprit, fût-ce sa vacuité, sa clarté ou quelque notion que ce soit, serait encore une vision dualiste qui prendrait l'esprit, la vacuité ou la clarté pour référence. Donc, sans même d'observation, et particulièrement sans même d'observateur, laisser être ainsi tel quel, simplement, sans référence. Mais il ne s'agit pas non plus de ne pas voir, car il s'agit que le cours de l'attention vigilante, le cours de la lucidité ne s'interrompt pas. La clarté subsiste naturellement et ainsi sans interruption. Il est nécessaire de que l'expérience reste celle d'une vision claire, reste dans la clarté. C'est comme dans un endroit où la lumière est allumée. Voir clairement n'exige pas d'effort spécial et l'esprit reste ainsi sans s'engourdir ni sombrer en une sorte d'opacité obscure. Qu'il y ait d'engourdissement, que l'esprit se fige, et aussi sans qu'il s'affaisse, sans que l'on s'affaisse, s'assoupisse et plonge dans un état qui deviendrait une sorte de torpeur. Rester ainsi l'esprit translucide, en un état de transparence, lucide, clair et dégagé. Transparence, apparent et ouvert donne transparence, une transparence claire, vive et dégagée, ouverte. Le ciel est naturellement clair et ouvert, de même l'esprit, pour autant qu'il soit laissé tel quel, Rambap, en son état naturel, donc en son état naturel, laissé tel quel, sans saisie, l'esprit est naturellement clair et ouvert, comme l'espace baigné de clarté. Laissant ainsi l'esprit dans un état de présence totale. Présence totale, pleine, globale. Sans l'orienter vers le passé ou le futur, sans ressasser le passé, ni aller au-devant de l'avenir. dans l'instant présent, sans être à ressasser, repasser le film d'événements antérieurs ou revenir sur le passé, sans se projeter, anticiper l'avenir. Passé, avenir sont du mental, sont des conceptions. Dans l'instant présent, simplement présent à conceptuel. Sans penser, j'ai fait ceci ou cela, je ferai ceci ou cela, laissant l'esprit simplement vigilant, tout simplement, tout simplement, sans le contraindre, sans rien y changer, en l'instantanéité présente. L'instantanéité présente, c'est plus que l'instant présent. L'instant présent est un instant que l'on habite peut-être, ou que on peut se poser en quelque sorte dans l'instant présent. L'instantanéité se dérobe même au temps et est avant toute saisie, tout repère, avant même l'observateur. Cette instantanéité présente, encore nommée présence d'instantanéité, qui se dit en tibétain datar gichepa. Contemplons en cet état si l'esprit reste vraiment ainsi, tel qu'il vient de lui-même, tel qu'il est en lui-même, c'est ce que l'on nomme l'esprit naturel, l'état naturel, Rambap en tibétain. Rambap a beaucoup de sens. C'est l'état naturel, l'esprit naturel, ainsi, tel quel, et cet état qui vient lorsque Rambap, lorsque l'on s'est laissé tomber, lorsqu'on a lâché prise, on a dessaisi. Rambap, l'esprit naturel. C'est ce que l'on nomme aussi l'esprit ordinaire. En tibétain, Tamel Gichepa. Esprit ordinaire, ici, ayant le sens de l'esprit naturel dans son ordre ou dans son ordinaire premier, avant que quelque chose de plus ait été ajouté ou fabriqué. Tamel Gichepa. TGS, disent nos amis anglais. Ou encore l'esprit d'immédiateté. Réalisé, c'est l'état de Mahamudra. Un moment de contemplation ainsi. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue.